dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Les gens qui viennent vivre chez nous, on a besoin de ces gens-là. On en a besoin parce qu'ils sont comme nous et ils nous apportent plus qu'on ne leur donne. Ce mélange qu'il peut y avoir dans l'humanité a fait la force de l'humanité.
Donc oui, il y a cette dichotomie entre les réfugiés politiques et puis les exilés donc économiques. Moi, je suis contre cette dichotomie parce que non, il fuit des situations vraiment éprouvantes. Et donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir à un nouvel accueil.
Quelqu'un ne quitte pas son pays natal par fantaisie ou par simple lubie. Bien souvent, dans la plupart des cas, c'est parce qu'il y est contraint et qu'il souhaite surtout un avenir meilleur pour ses descendants, quoi. Voilà, tout simplement.
Alors, les gens d'Aubin, ce sont des résistants, comme dans tout le bassin. Tout ce creuset donc, qu'a formé cette immigration depuis la guerre de 14, depuis l'immigration espagnole, qu'ils ont appris à résister, à se battre et surtout à vaincre.
On provoque vraiment de la misère, quoi. On n'accueille pas la misère du monde, on la provoque en faisant ça.
Un couple de Libanais est arrivé en France en 2016 avec leurs deux petites filles, aujourd'hui âgées de 7 et 9 ans, afin de leur offrir une vie meilleure. Ils entament alors le parcours long et difficile des demandeurs d'asile et après 6 années passées sur le territoire français, ils commençaient à croire que leur vie prenait la direction qu'ils souhaitaient et que cette vie meilleure était à portée de main.
Ils ont acheté une maison dans un village du bassin de Decazeville, dans l'Aveyron. Les filles ont trouvé un équilibre dans cette nouvelle vie rurale. Le papa travaille dans le bâtiment et la maman a le projet de devenir aide à domicile.
Ces avancées réelles et concrètes sont aujourd'hui mises en péril car ils ont reçu, début octobre, une OQTF, obligation de quitter le territoire français, ordonnée par la préfecture de l'Aveyron.
Ce lundi 17 octobre, 200 personnes ont manifesté leur soutien à cette famille.
Aujourd'hui, dans Dissonance, nous entendrons le maire d'Aubin, Michel Barre,
la présidente de l'association La Boussole, Sylvie Remes,
Graziella Pierini, descendante d'immigrés et conseillère départementale,
le vidéaste Alain Solignac, qui accomplit un incroyable travail de mémoire sur l'histoire sociale du bassin,
et Nadine Perrière, bénévole à la CIMAD. Obligée de quitter le territoire français, ça se passe en Aveyron, à Aubin. Un reportage sur Dissonance.
Votre attention, s'il vous plaît. Oyez, oyez.
Michel Barthes, maire d'Aubin.
Madame Rennes, que à Aubin, à Combes, il y avait une famille qui avait reçu des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ces personnes sont suivies depuis quelque temps par les services de la municipalité, notamment Madame Michèle Edmond-Joseph qui est là, ma première adjointe. J'étais à la rencontre de ces gens, j'ai été les voir, j'étais surpris de voir qu'on pouvait donner des OQTF à une famille dont le père travaille, dont la mère s'occupe des APE, dont la maman fait des sorties scolaires, dont les enfants ont des résultats scolaires en France, chez nous, et en parlant bien le français, d'une façon remarquable. Alors évidemment, ma première réaction était avec Madame Rennes, avec Rassimane, avec Carole, je crois, je ne sais plus le prénom. On s'est rencontrés avec la directrice de l'école, avec aussi les APE et aussi les syndicats. Et aussi tout le monde, qui ne sont pas forcément syndiqués. Et aussi des migrants qui sont ici, qui sont venus soutenir cette famille. Et moi, ce que je trouve... un peu peu scandaleux, quelque part, c'est d'envoyer ce genre de missive à cette famille qui n'a pas d'histoire. On s'est renseigné, il n'y a rien, il n'y a rien. Ils ne veulent vivre qu'en France, ils travaillent. Ça fait 8 ans qu'ils sont en France, qu'ils courent après les papiers. Vous voyez les gamines, comment elles sont. Elles sont formidables, formidables. C'est une famille formidable et qui vient à Combes. Alors, bien évidemment, sont associés. J'ai appelé le président de la communauté de communes qui n'a pas pu venir, mais tous les maires de la communauté de communes nous soutiennent. Ça, il faut le savoir. Voilà, notre député nous soutient, les conseillers généraux nous soutiennent, les conseillers départementaux nous soutiennent, et vous nous soutenez, mais il faut surtout soutenir cette famille, et pas que, parce qu'il y en a d'autres encore. Il y a ce qui est dit à la télé et la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, c'est que ces gens nous aident. Ils viennent chez nous pour travailler avec nous, parce qu'ils sont chez eux aujourd'hui. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps parce que je ne vais plus avoir de voix, mais sachez que mon empathie va vers eux et sachez aussi que ma colère, enfin la colère de toute la municipalité, d'Aubin, mais certainement des autres municipalités, on a cette colère aujourd'hui d'avoir encore un combat à mener sur quelque chose qui est complètement irréaliste. On ne comprend pas comment on peut envoyer des OQTF sans aller voir ces gens, sans aller voir, vous travaillez, ben vous faites ci, ben écoutez, vous avez un bon dossier, présentez-nous, on va vous faire des papiers. C'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui, on envoie un papier et puis basta. Alors ils peuvent rester plusieurs années qu'une OQTF, il faut le savoir. Mais comment ils font pour travailler? Comment ils font? Aujourd'hui on leur dit, ouais, mais c'est leur mettre leur couteau sous la gorge, puis allez-y, vous pouvez pas trouver de travail, vous n'avez pas de papier. Or ils travaillent. Et c'est ça, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le bassin, c'est de se battre pour cette cause qui est pour moi humaniste, mais plus que ça, elle représente notre pays, elle représente le bassin, elle représente nos souffrances. On a tous vécu des souffrances. Ces gens-là étaient en souffrance il y a quelques temps. Moi, j'ai été les voir tous les deux. C'est comment dire, quand vous voyez la maman qui pleure, parce qu'elle a peur qu'on vienne la chercher la nuit, donc on l'a rassurée. Mais il faut le vivre ça avec 2 enfants. Comment on peut faire subir ça à quelqu'un, à une famille? On est en 2022. Alors moi, je suis très, très en colère quelque part. Alors il y a des bonnes nouvelles, parce qu'on a été voir Madame la Préfète, le député Laurent Alexandre. Il a été discuté avec elle. Donc on va essayer de faire avancer les choses pour que ça discute, pour que ça mouline, pour que ça mouline. Mais il faut rester, comment dire, solidaire et soudé. Il ne faut pas croire que ce sera le seul rassemblement. Il y en aura certainement d'autres. Parce qu'il y aura peut-être d'autres familles qui vont être concernées. Et on sera encore là avec eux. Et moi, je vous remercie sincèrement pour eux, pour leurs enfants. Et puis surtout, je voudrais remercier la boussole et la CIMAD qui sont là vraiment pour aider ces gens. Ils ont besoin de nous. Et franchement, merci à vous. Et puis,
Monsieur Barre, vous êtes le maire d'Aubin. On vient de vous entendre et vous avez clamé ce jour-là votre indignation, votre colère et votre humanisme. Pourquoi votre indignation?
Alors tout d'abord, bonjour. Mon indignation, c'est parce que je suis dans un pays des droits de l'homme et je ne peux pas concevoir qu'on puisse envoyer un courrier aussi dur pour une famille qui est si bien intégrée chez nous. Et je ne comprends pas. Donc, je suis indigné par ce qui se passe, la manière que ça se passe. Donc, je veux bien qu'il y ait des enquêtes qui se fassent. Ça, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas contre le droit. Mais là, ce n'est pas le droit. C'est aller vers des gens qui sont bien et leur dire vous avez sous la tête une épée de Damoclès. On ne peut pas vivre comme ça. Donc, je suis indigné.
Ce sont des gens qui sont arrivés il y a 8 ans, qui étaient intégrés. Vous avez dit que la dame s'occupait de la PE, que le mari travaillait. Et malgré ça, ils sont expulsés. Alors, je pense que vous connaissez le chemin. L'OFPRA veut essayer de savoir pourquoi ils sont partis. Souvent, on leur dit, oui, mais les éléments que vous étayez, que vous avancez pour le danger que vous risquez d'encourir dans votre pays, c'est pas assez étayé. Donc souvent, après, il y a la cour d'appel, le CNDA, et puis ça s'arrête là. Et puis après, le préfet prend une décision. Souvent, il suit les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Mais il n'a pas vu, comme vous dites, l'intégration de cette famille.
Oui, c'est un peu ça le problème, c'est que on envoie des courriers formels à des gens sans les connaître. C'est-à-dire, on ne sait pas à qui on a affaire et c'est un peu envoyé comme ça. Alors il y a une demande de séjour, de carte de séjour. Quand elle a accepté, elle est à un délai. Quand elle a fin de délai, elle n'est pas renouvelée. Automatiquement, vous avez une OQTF. Mais déjà, même quand on donne la carte de séjour, il n'y a pas tellement. On donne la carte de séjour, la personne travaille, ses enfants vont à l'école, tout se passe bien. Arrive à la fin de la carte de séjour, ils demandent à pouvoir habiter en France. Et on leur dit non, monsieur, maintenant vous envoyez une OQTF, vous partez dans un mois, parce que c'est 30 jours. Et il y a deux cas, dans le cas de cette famille, il y a deux cas. Il y a le cas du monsieur et le cas de la dame, qui n'est pas tout à fait le même, mais qui s'apparente parce qu'ils les ont mis ensemble. La dame, elle est syrienne, syrio-libanaise. Elle a quitté la Syrie pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Au Liban, elle n'était pas super bien acceptée non plus. Son père travaillait, c'est une famille sans histoire, mais elle a dû quitter le territoire parce que elle ne pouvait plus vivre là-bas. Elle est arrivée en France, le fait qu'elle ait dit qu'elle était syrio-libanaise, ils ont retenu que le côté libanais. C'était moins embêtant parce que au Liban, tout va bien. Et c'est pas tout à fait le cas. Donc elle a demandé, elle, une carte de séjour à laquelle on lui a refusé. Et donc, de OQTF en OQTF, elle se balade, elle attend. Ses enfants, vous voyez les enfants, comment ils sont adorables, ils parlent très bien le français. Tout le monde parle bien le français d'ailleurs, mais ils sont vraiment bien, bien, bien intégrés, avec des super notes. Et on dit à cette dame, vous n'aurez pas de papier. Et son mari, le compagnon avec qui il est, lui, il est dans le cas aussi pareil, il était en demande de carte de séjour, fin de carte de séjour, on lui dit OQTF, les deux en même temps. Ils viennent d'acheter une maison qu'ils sont en train de rénover, le gars il travaille, donc c'est pas un problème de travail, c'est pas un problème de courage, c'est pas quelqu'un qui vit des allocations sociales, comme chacun pourrait le dire, c'est pas tout à fait, on n'est pas dans ce cas-là, on est sur des gens qui travaillent. Et elle, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller voir les familles, d'aller voir à l'école, de dire je veux participer à l'APE, et elle participe. Et donc, j'arrive pas à. Moi, je ne l'admets pas, ça. Je ne peux pas l'admettre parce que c'est des gens qui travaillent, on ne les embête pas, quoi. À un moment donné, je ne comprends pas. Moi j'ai le sang rouge comme eux. Pour moi, c'est la même famille. Je suis un être humain. Ce sont des êtres humains. Ils veulent vivre à côté de moi. Ils sont sympas. Moi, je veux qu'ils restent à côté de moi. Voilà. L'administration, elle a un papier, c'est automatique. Et ça serait bien que, par exemple, à un moment donné, on dise, on va aller voir les gens, on va rencontrer le maire. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de QTF, j'en sais rien. Mais nous, à Aubin, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a. Eh bien, qui viennent nous voir. On va voir les gens, on leur explique, on leur montre. Et oui ou non, doivent-ils partir? Est-ce qu'une famille qui a deux enfants, qui aide à Aubin, qui nous aide à nous, qui nous aide, qui sont là? Est-ce qu'on doit les faire partir? Ils verront bien que non. Et au moins, peut-être qu'on gagnerait du temps. Parce qu'on parle de QTF, on gagnerait du temps au niveau de la police, etc. De dire, tout compte fait, on a été voir, il y a une enquête sociale. Moi, je comprends même pas qu'il n'y a pas une enquête sociale. Personne n'est venu me voir dans mon bureau pour dire, ces gens-là, il faut les faire partir ou pas? Voilà, donc je me pose beaucoup de questions sur l'automatisme de l'administration, même s'ils font bien leur travail. À un moment donné, il faut peut-être appuyer sur le bouton « stop ». Et puis voir s'il n'y a pas un reset à faire là-dedans, quoi. Voilà.
Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez prononcé, mais il me semble avoir reconnu votre voix. Vous dites une seule terre, une seule humanité.
Oui, 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 tout à fait. Une seule terre, une seule humanité. Il faut être clair. Les gens qui viennent vivre chez nous, on a besoin de ces gens-là. On en a besoin parce qu'ils sont comme nous. Ils nous apportent. Ils nous apportent plus qu'on ne leur donne. Il ne faut pas croire ce mélange qu'il peut y avoir dans l'humanité a fait la force de l'humanité. Et c'est pas l'inverse, c'est pas en restant reclus chez soi ou en empêchant les autres de venir chez nous qu'on va grandir, non. Là, on se rapetit, on devient petit.
Dans son malheur, dans son terrible malheur, cette famille a une chance et une lueur d'espoir, c'est d'être arrivée sur la commune d'Aubin, terre d'accueil.
Cette richesse qu'il y a eu à Aubin de toutes ces familles qui sont venues d'autres pays a créé Aubin et le bassin. Comme dans le nord, comme dans l'est, à l'époque des mines. Là, on était bien content d'avoir des Polonais qui venaient, etc. On était bien content. Et on se dit, aujourd'hui, ça a été une richesse. La richesse du bassin, c'est sa force de combat pour justement l'humanité, pour justement qu'on vive heureux, pour justement qu'on ne regarde pas l'autre, ce qu'il a dans son assiette, mais comme un ami. On voit les gens comme des amis. Et il y en a qui essayent de faire l'inverse, qui essayent de dire lui c'est un ennemi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et c'est ça la richesse.
C'est ce terreau d'anciens exilés qui a fait que ce soutien a été aussi magnifique, est aussi magnifique.
Ah oui, tout à fait. N'importe comment, dès qu'on a été alerté, et j'ai eu plein de coups de fil. Tout le monde a voulu. On a parlé de rassemblement, de pétition. Et c'est pas fini. C'est-à-dire que les gens attendent. Parce qu'ils vont pas accepter. Ils vont pas accepter ça. C'est pas possible. On n'en voit pas parce qu'ils font partie de nos enfants maintenant. Cette famille fait partie de nous-mêmes. Donc c'est plus. On nous arrache un bras. On va pas se laisser arracher un bras, c'est pas possible. Donc l'humanité, elle s'est vue tout de suite. Beaucoup de monde de tout milieu social, de toute profession, de toute force politique, j'insiste là-dessus, ce n'est pas forcément qu'une force politique, c'est toutes les forces politiques, de la droite vers la gauche, qui sont venues, qui m'ont appelé, qui ont dit on soutient et on est d'accord avec pour soutenir cette famille. Et je pense que aujourd'hui, on n'a vu qu'un tout petit peu. La pétition pour un petit village comme le nôtre de 3500 habitants a récolté, je crois, pas loin de 25 000 signatures. Mais quelque part, c'est pas fini. Et on a toute une organisation qui se met en place. On attend. On attend la sagesse. Alors moi, j'espère beaucoup. On a un nouveau préfet. Déjà, madame la préfète que je salue, qui va partir, que j'aimais bien aussi, hein, clairement. Une dame qui savait entendre. Hein, on a un nouveau préfet qui a vécu des choses comme moi, qui a été dans la marine nationale comme moi, très longtemps. On sait ce que c'est que d'être marin. Et un marin ne laisse jamais quelqu'un se noyer. Voilà. On repêche les gens. On pourrait parler des boat people, etc. Je pense que monsieur le préfet me comprendra. Ben, je suis un peu dans ce cas-là. Donc je suis, moi, comme maire, mais aussi comme ancien marin, très, très, comment dire, méfiant et très en avant pour défendre des gens qui méritent d'être défendus. Et derrière moi, enfin, c'est pas que moi, il y a toute une population qui pense la même chose. Donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir navigué pour ça, pour connaître ça. Mais c'est juste que, voilà, si monsieur le préfet m'entend, je lui fais entièrement confiance. C'est très bien que je respecte, moi, honneur, patrie, valeur et discipline. Il voit ce que je veux dire. Je compte sur lui pour nous aider.
Dans la chaleur pesante de la salle d'attente à Lausanne, une nuit, ils sont là, 20 ou 30, qui somnolent ou qui chantent pour passer leur ennui. Ils ne parlent pas mon langage, viennent d'Espagne ou d'Italie. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ils ont dans leur valise un trésor, trois chemises, un pantalon usé. Dehors, le froid, la bise, racle la pierre grise et le goudron du quai. Ils viennent bâtir nos barrages, nos ponts, nos autoroutes aussi. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Leur maison, leur famille, leurs garçons et leurs filles, ils ont dû les laisser. C'est la loi qui le dit, paraît, dans mon pays, il y a trop d'étrangers. Leur faudra du cœur à l'ouvrage, et puis apprendre à dire oui. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ceux qui qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ça n'a pas d'importance. On ne veut que leurs bras. Et tout ça est normal, et tout ça me fait mal. Ça se passe chez moi. Ils retrouveront leur village quand on ne voudra plus d'eux ici. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent.
Obligés de quitter le territoire français. Ça se passe en Aveyron, à Aubin. Reportage sur Dissonance.
Il y en a eu des lanceurs d'alerte dans cette vilaine et sombre histoire d'OQTF.
Il y a eu Marie Lacaze, conseillère régionale.
Karine Durand, qui a lancé la pétition qui approche les 30 000 signatures.
Et aussi l'association La Boussole, qui a fait de l'accompagnement humain auprès des demandeurs d'asile sa priorité. Une spécificité qui l'a conduit à accompagner les migrants au cinéma, au bowling, à organiser des visites culturelles comme à Conques, mais aussi des baignades, des ateliers de danse, de cuisine, voire d'apprentissage du code de la route.
Avec le soutien de la CIMAD, Sylvie Rémès, la présidente de La Boussole, entre en résistance contre l'arbitraire.
Je vais être brève, donc je suis Sylvie Rémès, la présidente de La Boussole, collectif d'entraide aux personnes exilées sur le territoire du bassin de Decazeville. Donc je voulais vous remercier et effectivement souligner que dans les rangs, nous avons des demandeurs d'asile et des réfugiés afghans, maliens, mauritaniens, voilà, donc qui sont là pour soutenir ces gens qui sont donc dans un processus effectivement très complexe, très fastidieux, très fatigant. Comme vous l'avez dit, ça fait 6 ans qu'ils sont en France et que comment renvoyer une famille dont les enfants ne connaissent pratiquement que la France dans un pays qui s'effondre. Le Liban, nous avons lu récemment un état des lieux d'Amnesty International sur la situation au Liban. C'est un pays, comme vous le savez, qui est en chaos économique, politique et social. Donc déjà, la décision de les renvoyer dans un pays comme celui-là est injuste. Je voulais souligner cela. Également, une seconde chose, c'est qu'il faut savoir la réalité humaine qui est derrière une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Ça ne veut pas dire qu'on va les prendre et les mettre dans un avion dans le Liban. Il y a en intermédiaire un centre de rétention. Et qui dit centre de rétention dit presque la prison. L'État français a déjà été condamné pour avoir placé des enfants dans des centres de rétention. Donc il faut savoir qu'il y a ça derrière une OQTF aussi. Voilà, je voulais tous vous remercier pour cet élan de solidarité dont vous êtes le témoin, qui ressemble au bassin de Decazeville. Merci.
Ce qui me plaît dans La Boussole, c'est cette dimension d'accompagnement humain que ne font pas d'autres associations qui s'occupent, et c'est très bien d'ailleurs, de trouver du logement, de les aider juridiquement, administrativement. Mais l'humain, effectivement, c'est primordial. C'est ce que vous faites.
Voilà, donc effectivement, nous, on ne s'occupe pas du parcours administratif ni juridique. On n'est pas expert. On donne avec le cœur. On a des gens hyper généreux.
Sylvie Rémès, présidente de l'association La Boussole.
Et moi, j'ai été touchée lors du rassemblement de voir qu'il y avait quelque chose comme 200 personnes, je crois, et des gens qui venaient de Villefranche, des gens qui venaient de Figeac, avec des petites pancartes. Ils ne connaissaient pas la famille libanaise. Et je me dis, mais il y a des gens qui sont vraiment dans la lutte citoyenne, la lutte humaniste. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. Et c'est vrai qu'au sein de notre association, on a pu fédérer. On parle toujours du racisme, on parle de la montée du RN, on parle des fachos, etc. Mais moi, je trouve qu'il faut mettre l'accent sur, en tout cas dans le bassin, je trouve qu'on a cette dimension probablement historique qui est d'avoir un élan de cœur.
C'est la première fois que La Boussole est confrontée à OQTF ?
Alors donc, oui, c'est la première fois. Enfin, on savait qu'il y avait d'autres OQTF. Après, on a eu le cas de personnes qui, du coup, disparaissaient très, très vite dans la clandestinité et allaient rejoindre les grandes villes. Hein. Ils sont partis à Paris, je pense à plusieurs Soudanais qui n'ont pas eu de titre de séjour, donc qui ont été déboutés du recours à la CNDA et même au tribunal administratif. Et donc, eux, ils sont vite, vite partis dans la clandestinité. C'est la première fois que sur le conseil de la CIMAD et sur le conseil de l'avocate qui a pris en charge donc le dossier de cette famille libanaise, sur ces conseils, on nous a dit « faites du bruit, mettez ça sur la place publique, rédigez un article, faites une manif, une pétition, faites du bruit, pesez également avec, si possible, des appuis politiques, parce que ça met sur la place publique toute la problématique de l'accueil, de l'injustice de l'accueil, de la politique d'exclusion actuelle par rapport à des familles qui, en fait, cochent toutes les cases d'une excellente intégration, puisque, effectivement, la famille libanaise parle le français, est intégrée dans le village, a deux enfants adorables qui sont scolarisés, sont propriétaires d'un bien. Ce n'est pas tous les jours qu'on a quand même quelqu'un qui a pu s'acheter une petite maison un peu délabrée, mais qu'il retape. Il coche toutes les cases et on se dit que vraiment, si la France n'intègre pas ces gens-là, je ne vois pas qui elle pourrait intégrer. Et donc là, on se bat effectivement pour qu'il y ait une issue favorable.
De l'espoir du côté de la préfecture, puisque c'est eux qui délivrent les OQTF?
Alors écoutez, oui, là on vient de changer, la préfète est partie, il y a un nouveau préfet qui s'installe, il a accordé une interview, on a vu dans les médias que c'était un homme a priori ouvert, humain, donc on compte beaucoup, oui effectivement, ils ont un grand pouvoir les préfets, hein, et donc on espère que le nouveau préfet se rende compte de la situation, parce qu'on a l'impression qu'en fait le refus de l'acceptation donc de leur titre de séjour en préfecture et la délivrance de cet OQTF, on se demande quelles en sont les raisons. Il nous semble qu'ils ont juste analysé tous les refus qui étaient en amont de leur triste histoire, de leur périple en France, et qu'ils n'ont pas pris en compte et analysé la dynamique qui est en œuvre dans cette famille avec son installation, sa volonté de travailler et son intégration. Donc, prendre en compte au jour J, aujourd'hui, à leur hache, où en sont-ils et ils font preuve de plein de qualités humaines et de plein de processus d'intégration. Donc non, arrêtons de regarder les recours qui ont précédé et analysons, c'est ce que je demande au préfet, analysons la situation actuelle, comment sont ces gens et ils sont super, donc il faut les intégrer.
Le maire d'Aubin a dit l'autre jour, une seule terre, une seule humanité.
Moi, je me sens... Déjà, je suis belge, ça doit sentir à l'accent. Moi, je vis en France. Je me sens ni belge ni française. Je me sens effectivement plutôt citoyenne du monde. Moi, j'ai toujours été intéressée par l'étranger. J'ai eu la chance de voyager. Je trouve qu'ils ont plein de choses à apporter, mais même sur le plan culinaire, sur le plan de la langue, sur le plan de la culture. Là, on a fait, ça c'était assez chouette, on fait des rencontres entre femmes, parce qu'on voit que, bon, les femmes, et notamment dans le milieu musulman, c'est pas toujours facile, de se valoriser, et donc on se fait des rencontres entre femmes, où elles enlèvent le voile, où on se sent à l'aise, et là, dernièrement, on a dansé arménien, on a dansé syrien, et en fait, il y a plein de choses qui se passent, et moi, je me dis, mais ces gens-là, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. En fait, je trouve, pour reprendre François Jemaine, qui est un auteur belge que j'aime beaucoup et un expert en migration, il dit le lieu de naissance, c'est déjà une injustice humaine incroyable. Donc nous, on est riches, on est dans des pays riches. Je trouve que moi, ce qui me touche aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier le passé colonial. On est allé piller ces territoires, on est allé piller l'Afrique. Remettons le nez dans les livres d'histoire. Et je trouve qu'on a une dette et qu'il faut revoir toute la politique d'accueil.
Dernière question, la France, terre d'asile. C'est pas vrai?
Comment ça, c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire?
Mais je ne sais pas, si vraiment on était une terre d'asile, on serait pour l'accueil inconditionnel. Pas chercher à savoir pourquoi ils sont venus, ces gens-là. C'est Madame Graziella Perini qui disait l'autre jour, quand on quitte un pays, c'est pour des raisons bien précises et pas par plaisir.
Oui, ça je pense que c'est clair. C'est clair que ces gens ne sont pas venus par plaisir. Et ça c'est vraiment parfois des tabous à casser. C'est jamais par plaisir qu'on quitte sa famille, son territoire. D'ailleurs nous, nos jeunes demandeurs d'asile, nos jeunes réfugiés, ils restent en lien avec leur famille. Et puis bon, maintenant c'est vrai qu'on a Internet et WhatsApp, etc. Donc on voit bien qu'ils restent en lien, qu'ils s'intéressent à l'actualité de leur pays. On voit qu'ils continuent à manger les recettes de leur pays. Nous, on avait un jeune Guinéen ici à la ferme, puisque je suis également maraîchère de légumes bio. On a pu l'engager. Hein. Il avait ses papiers. Il a travaillé 3 mois avec nous. Il faisait des plats guinéens le midi. Non, ce sont des gens qui ne sont pas partis par gaieté de cœur. Ils sont partis souvent pour fuir la terreur, les guerres, etc. Mais pas que. Je pense qu'il faut... Il faut savoir que oui, il fuit l'exclusion, il fuit la violence, il fuit de la misère. Donc oui, il y a cette dichotomie entre les réfugiés politiques et puis les exilés donc économiques. Moi, je suis contre cette dichotomie parce que il fuit des situations vraiment éprouvantes. Et donc oui, moi je pense qu'il faut réfléchir à un nouvel accueil. Alors c'est vrai que ce sont des choses qui parfois nous dépassent, hein, parce qu'on craint des appels d'air, on craint... Mais il faut savoir que non, tout le monde n'est pas en mesure de partir. On peut toujours répéter que les premiers pays qui accueillent, ben, ce sont les pays limitrophes, hein, le Liban... je pense au Liban, mais la Turquie, et puis ailleurs. Parce que nous, on a beaucoup d'Africains et d'Afghans, mais... Voilà, on n'a pas trop des gens d'Amérique du Sud, mais les premiers pays d'accueil, ce sont quand même les pays limitrophes. Et nous, on est rikiki quand même en France, hein, et même par rapport à l'Allemagne et tout ça. Donc je pense qu'on peut encore faire de sérieux efforts.
Bonjour à tous, Pascal Mazé, donc moi je suis conseiller régional et je suis fier ici d'être là parce qu'il y a aussi Marie Lacaze qui est institutrice ici à Combes, mais qui est aussi conseillère régionale avec Carole Delga. Donc tous les deux, on est ici en tant que conseillers régionaux. Sachez que nous... On soutient entièrement à 100 000% cette famille, je le lui ai dit. Nous, on sera toujours là. Il faut rester unis, comme tu l'as dit, Michel. Il faut rester unis. Il ne faut surtout pas lâcher, mais rien. Parce qu'on sait comment ça se passe. Ça peut venir du jour au lendemain. Donc sachez que nous, en tout cas, on sera là. Que ce soit Marie Lacaze ou moi. La présidente est informée. Je l'ai eu encore cet après-midi au téléphone. Elle nous soutient aussi. Elle vous soutient. Donc sachez que la région est auprès de vous. On lâche rien, et avec Michel et tous les élus du territoire, on sera là. C'est tout.
C'est juste de vous dire qu'il y a d'autres familles qui sont dans cette situation-là. Je pense à d'autres familles qui proviennent d'autres endroits dans le monde et voilà, qui sont confrontées aux mêmes problèmes. Et je voudrais vraiment que nous nous battions auprès d'eux lorsque, malheureusement pour eux, ils seront peut-être confrontés aux mêmes choses. Donc soyons unis dans la durée pour les autres familles également.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
Obligé de quitter le territoire français. Ça se passe en Aveyron, à Aubin. Reportage sur Dissonance.
Alors, je m'appelle Graziella Pierini. Et mes ancêtres ont connu l'exil, puisque il y a un siècle, ils ont émigré. Cette terre m'a accueillie, puisque j'ai fait ma scolarité à Combes. Je dois dire que la France, c'est avant tout le pays des droits de l'homme et de la femme. Et que quand une famille quitte son pays, c'est jamais de gaieté de cœur. Jamais. Elle le quitte parce qu'elle veut un projet pour ses enfants. Elle veut un avenir pour ses enfants. Mes ancêtres ont fait ce chemin-là. Aujourd'hui, bien sûr, ça remonte à un siècle, mais l'histoire se répète dans le monde entier. La France devrait être honorée d'avoir comme drapeau les droits de l'homme et de la femme et de l'enfant. Ça devrait être notre leitmotiv. Vous êtes là pour le témoigner. Je vous en remercie sincèrement. On aura encore besoin longtemps de cet effort collectif, de cette solidarité, pour que des êtres humains puissent enfin trouver la paix, faire leur petit bonhomme de chemin et être heureux là où ils vivent. Je vous en remercie sincèrement.
Merci à vous. Merci.
Merci, merci. Vous, Madame Pierini, Graziella Pierini, vous avez été élève dans cette école de Combes, où sont scolarisés les enfants de la famille libanaise, et vous êtes aussi arrière-petite-fille d'exilés.
Ce que j'ai essayé de passer comme message, c'est que la France a quand même encore des valeurs d'humanisme et des pays de droits de l'homme. Alors bon, je rajoute avec un petit clin d'œil de la femme, mais je sais que les droits de l'homme s'écrit avec un H majuscule, mais bon, voilà. Les pays de l'être humain, alors je sais pas comment il faut le dire, voilà. Et que je peux comprendre qu'il faille des lois et des régulations, ça à la limite je peux le comprendre, mais on ne doit pas s'exonérer de discernement. Et ne pas certainement pas faire des amalgames et juger les gens uniquement sur des lois expéditives ou qui manquent d'humanité et de discernement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et que la France s'honorerait que d'être fidèle à ses valeurs humanistes. Quoi. Voilà, hein. C'est un peu en substance. Et c'est vrai que j'ai fait état de ma propre histoire. Hein. J'ai simplement dit que quelqu'un ne quitte pas son pays natal par fantaisie ou par simple lubie, bien souvent, dans la plupart des cas, c'est parce qu'il y est contraint et qu'il souhaite surtout un avenir meilleur pour ses... pour ses descendants, quoi, voilà, tout simplement. Alors, bon, c'est vrai que ça fait écho, si vous voulez, parce que sur le bassin de Cazevillois, on a une histoire faite de ces brassages de population qui, et de ces divers mouvements politiques, économiques, sociaux, quoi, hein, l'Espagne, l'Italie, voilà. Hein, donc, c'est un peu ça que j'ai dit, quoi, tout simplement, ça n'a rien de... voilà.
Donc, France, terre d'accueil, c'est pas tout à fait vrai, alors. Hein, c'est ça, enfin...
Ben, disons que je trouve, mais c'est personnel, mais je trouve que on manque de recul et on agit bien trop souvent par l'émotion, et ce qui est compréhensible, hein, quand des phénomènes se produisent, les attentats, etc. Bon, je peux comprendre, hein, qu'il y ait le souci d'une certaine un certain souci de sécurité, mais ça doit pas être que ça doit pas devenir sécuritaire, quoi, en clair, hein, voilà, hein, et on doit avoir du discernement quand on étudie des situations familiales, des demandes d'asile, des demandes de naturalisation, de demandes, on doit faire quand même preuve de discernement et de réflexion, quoi, sans oublier le fondement même de notre devise républicaine, quoi, tout simplement.
Pas un événement social n'échappe à l'œil de la caméra d'Alain Solignac. Depuis 30 ans, il filme pour l'histoire. Ce jour-là, à Aubin, il était là, car pour lui, voir une famille de demandeurs d'asile expulsés du bassin Houillé, c'est aller à contresens de l'histoire.
Le bassin, effectivement, est un foyer d'immigration. Moi, dans ma jeunesse, j'avais beaucoup de copains espagnols, mais non seulement ça, d'origine russe, d'origine polonaise, un peu plus tard les Portugais. Donc ça a formé une espèce de creuset dans lequel, ben, on s'est tous entendus et on a tous eu aussi envie de faire vivre ce bassin, de mélanger nos cultures. Et également, ben, de militer et de promouvoir une certaine entente au niveau social.
Et qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là quand tu as vu cet élan de solidarité ?
Bien, disons que je me suis retrouvé dans ce bassin qui, effectivement, depuis la, on va dire, la petite droite jusqu'à l'extrême gauche, se retrouve dans ses valeurs humanistes, ces valeurs de solidarité et également de mixité sociale. Et donc là, on a pu voir qu'effectivement, tous les habitants de ce bassin ont envie de garder cette famille parce qu'elle est très bien intégrée, comme l'ont dit les précédents orateurs. Elle est tout à fait intégrée dans la société aubinoise et que nous avons besoin également de ce sang neuf pour enrichir notre culture déjà multiculturelle. Et voilà, on est pour la mixité sociale et le savoir et le vivre ensemble, peu importe les origines et les différences que nous pouvons avoir.
Les gens d'Aubin, ce sont des résistants, quelque part.
Alors, les gens d'Aubin, ce sont des résistants, comme dans tout le bassin, on peut le dire, alentour, à Decazeville, à Firmy. Tout ce creuset donc, qu'a formé cette immigration depuis la guerre de 14, depuis l'immigration espagnole qui est venue aussi également ici. Donc ils ont appris à résister, à se battre et surtout à vaincre.
Ils arriveront quand même, malgré les murs, malgré les mers, malgré les murmures amers ou les déclarations guerrières. Ils arriveront quand même. car ils sont jeunes et qu'ils n'ont rien, pas même l'espoir que demain soit différent de ce matin. Ils arriveront quand même, les enfants rêvant de pactole, devant nos télés qui racolent, mirage en boucle et parabole. Ils arriveront quand même, car nos experts savent y faire. Le travail au noir, ça nous sert, salaire aux enchères, à l'envers. Ils arriveront quand même, cueillir nos fruits, monter nos tours, sans rechigner jour après jour, hôtel minable en arrière-cour. Ils arriveront quand même, car nos règles, nos lois, nos marchés remplissent nos supermarchés, commerce équitable à pleurer. Ils arriveront quand même, malgré les murs, malgré les mers, malgré les murmures amers ou les déclarations guerrières. Ils arriveront quand même, et rien ne saurait remplacer toutes ces vies qui sont volées, et rien ne saurait excuser les rafles et les enfants traqués. Ils arriveront quand même, dans les supermes ou les avions, entre les essieux des camions, par-dessus les barbelés, nos frontières électrifiées. Ils arriveront quand même, ils arriveront quand même, ils arriveront quand même, ils arriveront quand même.
Obligés de quitter le territoire français. Ça se passe en Aveyron, à Aubin. Reportage sur Dissonance.
Bonjour Madame Perrière, vous êtes membre bénévole d'un groupe local de la CIMADE dans le Lot, à Figeac.
Oui, donc la CIMADE, c'est une association qui s'occupe du droit des étrangers depuis plus de 80 ans, puisque la CIMADE a été créée pour les rapatriés d'Alsace-Lorraine. Et donc, depuis cette période, eh bien, on aide les personnes étrangères à obtenir leurs droits.
Et concrètement, ça veut dire que vous les accompagnez dans leurs démarches administratives quand elles arrivent ici en France ?
Oui, donc il y a un volet juridique important, puisqu'on a des compétences en termes d'expertise juridique sur le droit des étrangers. Que ce droit des étrangers est extrêmement complexe. Tous les deux ans, il y a une réforme qui s'ajoute à la précédente, qui est toujours plus restrictive, qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent sur le territoire ou n'arrivent pas à faire renouveler leur titre de séjour, ou n'arrivent pas à accéder aux préfectures, ou pire, sont déboutés du droit d'asile et reçoivent des obligations de quitter le territoire. Alors, il y a des dossiers dans le Lot, puisque dans le Lot, sur Cahors et sur Figeac, il y a deux groupes. Il y a un groupe à Cahors et un groupe à Figeac. Il n'y a pas de groupe CIMADE dans l'Aveyron. Et c'est pour ça que nous avons des personnes du Nord Aveyron qui viennent nous contacter aussi pour avoir des conseils. Bon, c'est plus compliqué sur le Nord Aveyron, c'est pour ça qu'on est en contact avec des associations locales comme la Boussole, qui relaie le travail à faire auprès des personnes, de l'accompagnement. Parce qu'au-delà de la permanence juridique, il y a besoin d'accompagnement. C'est pas si simple de... ça ne peut pas être simplement un rendez-vous d'une heure et voilà, on a la solution. C'est un peu plus compliqué que ça.
Et c'est pas déprimant comme fonction, parce que vous devez des fois être...
Eh bien, ce qui est déprimant, effectivement, c'est ce que l'on peut entendre dans les médias sur tous les jours, sur les problèmes d'immigration. Ça, c'est carrément déprimant. Mmh. De voir que l'étranger est stigmatisé comme étant le fauteur de troubles et que les situations sont de plus en plus difficiles à régler. Oui.
Et donc, vous avez affaire à des cas de gens qui ont fui leur pays pour des raisons économiques ou de guerre, qui n'arrivent pas à avoir leur autorisation de séjour.
Il y a plusieurs accès pour obtenir un titre de séjour. Ça peut être les demandeurs d'asile qui ont fui d'un pays en guerre ou qui ont été victimes de harcèlement ou de maltraitance. Et puis, il y a les titres de séjour qui peuvent être accordés pour conjoints, pour... Bon, ça, c'est deux chemins très différents. Mais la difficulté, souvent, c'est que au niveau des démarches pour obtenir l'asile, c'est très restrictif. Il y a à peu près 70% des demandes d'asile qui sont refusées. Et après, la personne doit partir. C'est le cas de pas mal de familles qui ont pris la voie de la demande d'asile et qui n'obtiennent pas l'asile. Alors, pourquoi est-ce que leur dossier n'a pas été pris? Bon, il y a beaucoup d'aléatoires dans ces entretiens. Puis, toutes les personnes, par exemple, qui viennent d'un pays d'Afrique, qui ont émigré pour des raisons économiques, sont refoulées.
Systématiquement, sans étude de leur dossier, même si elles ont subi des violences?
Si, le dossier est toujours étudié individuellement, mais les preuves sont très difficiles à obtenir. Mmh. Les gens peuvent dire, bon voilà, j'ai été victime de violences, mais les preuves dans le pays sont bien difficiles à obtenir. Des gens ont pu être incarcérés dans une famille du Congo. Ils ont été incarcérés, ils ont subi des violences, mais comment le prouver?
Quand ces personnes arrivent, elles sont entendues par des enquêteurs de l'OFPRA, puis après, s'il y a une décision négative, elles peuvent faire un recours devant la CNDA, la Cour d'appel, c'est ça?
C'est ça. La Cour d'appel, généralement, valide la décision de l'OFPRA. Donc, une fois que les deux recours sont faits...
Il n'y a plus que la décision du préfet, qui souvent valide la décision de l'OFPRA aussi, c'est ça?
Voilà. Donc, après, il y a la possibilité de demander un recours au préfet. Mais bon, dans le contexte présent, les décisions sont rarement favorables.
Et donc, dans le cas pour lequel on fait cette émission, la famille qui est dans le Nord Aveyron, ayant reçu un OQTF, n'a plus de recours.
Alors, une OQTF assortie d'une assignation à résidence, ce qui est quand même plus... Ça veut dire que la famille doit pointer à la gendarmerie deux fois par semaine pour prouver qu'elle est toujours sur le site.
Mais ça a une durée limitée, cette assignation.
Oui, donc après, une fois que les gens sont rentrés dans ce système-là d'OQTF, obtenir un titre de séjour est vraiment plus délicat. Il y a quelques années, il y avait la circulaire Valls qui permettait, au bout de 5 ans, de revenir en préfecture. Et s'il y avait des preuves d'intégration, c'était étudié, preuves d'intégration, scolarisation des enfants, autorisation de travail, etc. Il y avait moyen d'obtenir un titre de séjour. Ça l'est toujours, mais...
La circulaire Valls n'est pas abrogée quand même, elle existe toujours.
Non, elle existe toujours. Mais c'est une circulaire, elle fait pas force de loi.
C'est l'association La Boussole, ici, à l'Aveyron, qui vous a contacté.
Je pense qu'on est sur un territoire réactif.
Oui.
C'est le bassin familier, et ça réagit effectivement très, très fort. Hein. Après l'OQTF, il y a la possibilité d'un recours au tribunal administratif. Et donc, c'est important dans la plaidoirie de pouvoir dire que cette famille est accueillie de Casseville. Les enfants sont scolarisés, les parents ne posent pas de problème sur le territoire.
Et donc vous avez espoir ?
Écoutez, oui, il faut toujours avoir un peu d'espoir, mais sachant que c'est les doigts, enfin, qui... le tribunal administratif, parfois, effectivement, demande au préfet de revoir sa décision, ça nous est déjà arrivé, mais souvent aussi conforte la décision du préfet, parce que le préfet n'est pas hors la loi. Le préfet applique une loi qui est fort injuste. Justement, ça contre quoi la CIMAD se bat, c'est de demander la régularisation pour une régularisation beaucoup plus large. On se retrouve dans des situations où les gens travaillent, les enfants sont scolarisés et on veut les remettre dans une situation d'exclusion qui ne sert à personne, qui ne sert pas à l'État français, parce qu'il vaut mieux voir des gens qui travaillent que des gens à la rue. Ça coûte beaucoup plus cher de mettre les gens dans des centres de rétention que de fournir un titre de séjour. Ça coûte quand même beaucoup plus cher de payer la police aux frontières. C'est beaucoup plus cher. Le prix en centre de rétention, c'est pas la peine, quoi. C'est des prisons dans lesquelles on met des enfants aussi en France. On provoque vraiment de la misère, quoi. On n'accueille pas la misère du monde, on la provoque en faisant ça. Et là, bon, pour les familles, on est sensible parce qu'il y a des enfants qui sont scolarisés, elles parlent français, on se dit qu'elles n'ont jamais été au Liban et on ne voit pas ce qu'elles iraient y faire. Mais lorsque c'est des jeunes gens célibataires, leur situation est encore plus pathétique.
Comment on peut faire un tel boulot de bénévole et rester optimiste, Sylvie ?
Il se fait que j'habite d'un côté du Lot et de l'autre côté de la rivière et de la colline, eh bien, il y a des personnes que je ne connaissais pas et qui habitent tout près, en fait. Et moi, j'ai quasi tout dans ma vie et eux, ils ont quasi rien. Et donc, je suis un peu comme Cédric Héroux, là, qui voyait passer les migrants à côté de sa ferme et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Ils ont besoin de plein de choses. Eh bien, moi, je dis pareil. Je dis, mais moi, je peux... Enfin, moi et puis tous les autres bénévoles, parce qu'on est nombreux et on est motivés. On a beaucoup de choses. On a la chance d'avoir une situation stable, sécure. Et du coup, je trouve qu'on les a sous les yeux. Et quand on voit leur sourire, leur volonté, leurs larmes parfois, ben, je ne sais pas, on ne peut pas faire autrement que de donner. Moi, je trouve que ces personnes nous apportent énormément. Ils nous donnent même des leçons, parce que ce sont des gens qui ne se plaignent jamais. Moi, j'ai pu être aux côtés de certains qui ouvrent leur recommandé avec la réponse de l'OFPRA, qui, par exemple, est négative. Je vois qu'ils encaissent, mais je vois que... Franchement, ils ne se plaignent pas et malgré tout ce qu'ils ont subi, ce sont des gens, moi je trouve qu'ils ont changé ma vie et qu'ils nous donnent des leçons.
Un grand merci à Lilian Batelot pour la captation du son ainsi qu'à Annick Plénacoste pour la mise en relation.
Cette émission est à entendre sur les antennes de Radio Centrafrique ainsi que sur les ondes des radios partenaires. Vous pouvez aussi la télécharger à votre guise en allant sur les pages internet de Radio Centrafrique ainsi que de dissonance.ovh. Outre le lien pour podcaster l'émission, vous y trouverez de nombreuses informations complémentaires qui vous permettront d'en savoir davantage sur cette décision d'OQTF qui frappe cette famille. Pensez à signer la pétition qui s'y trouve afin que l'avocate puisse l'adjoindre à son recours auprès du tribunal administratif de Toulouse qui doit statuer sur la décision de la préfecture de l'Aveyron.
Salut
et fraternité.